Aujourd'hui, tout en haut de la liste se trouve un pays pauvre, le Lesotho, capitale du denim et du diamant. Explication. En Allemagne, l'AfD relayée au rang d'observateur, la CDU et les sociodémocrates ont en effet formé un accord de gouvernement. Économie, immigration, Ukraine seront au cœur de leurs actions ces quatre prochaines années. Puis enfin, nous irons au Paraguay, un pays gangréné par la criminalité et la drogue. C'est ce que déplorent les évêques.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. À compter de ce mercredi 9 avril, les États-Unis imposent donc une nouvelle salve de droits de douane à pas moins de 60 pays de par le monde. Le premier visé, c'est la Chine. Le grand rival commercial de Washington voit ses produits entrant sur le sol américain taxés de 104%. Pékin a répliqué du tac au tac. Elle saisit aujourd'hui l'Organisation mondiale du commerce, imposera dès demain 84% de taxes aux produits américains. Des représailles qui ont replongé les places boursières dans le rouge, de Tokyo à New York en passant par Paris. Le baril de pétrole est lui tombé sous le seuil de $60 au plus bas depuis 2021. Et dans ce contexte, l'Union européenne continue de modérer sa réponse, espérant négocier avec l'administration Trump. Les 27 se veulent néanmoins fermes en dépit de menaces américaines qui les invitent ce soir à ne pas suivre la voie chinoise ou à se rapprocher de Pékin, ce qui serait, dit-il, suicidaire. Ce jeudi, Bruxelles choisit de répliquer de manière graduelle et ainsi uniquement pour l'instant aux premières taxes imposées mi-mars par Washington à son acier et son aluminium. Pierre Danazé.
Tous les pays européens, sauf la Hongrie, ont validé une liste de plus de 1600 lignes de codes douaniers. Ça correspond à environ 180 catégories de biens industriels et agricoles produits aux États-Unis. Une liste très éclectique dans laquelle on trouve du soja et des motos Harley Davidson, du maquillage ou des jeans Levi's. Ça correspond aux contre-mesures édictées en juin 2018 face au premier droit de douane décrété par Donald Trump. Mais à quelques nuances près, puisqu'à la grande satisfaction de la France et de l'Italie, les quatre catégories de whisky américain ont été retiré, une décision destinée à échapper aux 200% de droits de douane dont menaçait Donald Trump si les Européens taxaient le bourbon du Kentucky. En revanche, les produits de l'acier et de l'aluminium y figurent bien, puisqu'il s'agit de contrer la première volée de mesures, celle du 12 mars sur les métaux. Maintenant que ces mesures sont adoptées, elles vont pouvoir entrer en vigueur en deux vagues, le 15 avril et le 16 mai. Désormais, les Européens préparent la suite, puisqu'ils sont bien décidés à répliquer au fameux droit réciproque décrété la semaine dernière, 20% pour l'Union européenne et au droit de 25% sur l'automobile. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
Et en Europe, les prévisions de croissance sont maintenant revues à la baisse de moitié en Italie. L'italienne Giorgia Meloni se rendra la semaine prochaine à Washington. En France, la croissance devrait plafonner à 0,5% selon l'OFCE. En Espagne, le gouvernement a présenté son bouclier anti-Trump, un plan à hauteur de 14,1 milliards d'euros. Il faut dire que 80% de ses exportations vers les États-Unis sont affectées. Des plans d'aide sont mis en place aussi à Taïwan ou en Corée du Sud. En Inde, la banque centrale a abaissé ses taux d'intérêt à 6%. En Asie, justement, Séoul, Tokyo, Pékin accélèrent les négociations pour trouver un accord de libre-échange. Le président chinois, qui se rendra la semaine prochaine en Malaisie, qui assure la présidence tournante de l'ASEAN, Kuala Lumpur, espère que les 10 pays d'Asie du Sud-Est feront front commun. Ils sont parmi les plus touchés. Et puis on en parle moins, mais sur le continent africain aussi, des pays pauvres, tributaires de leur exportation vers les États-Unis, ont été pris au dépourvu par cette nouvelle salve d'aujourd'hui, comme le Lesotho, taxé à 50%. Léo Charles, maître de conférences en sciences économiques à l'université de Rennes 2, il nous explique pourquoi.
Dans sa logique néo-mercantiliste, Donald Trump et son administration se focalisent sur les déficits commerciaux. Pour lui, un déficit commercial des États-Unis envers un partenaire, c'est forcément le signe que ce partenaire se protège, parfois de façon illégitime. Et le calcul des droits de douane, de la protection, c'est tout simplement le déficit commercial divisé par la somme des importations des États-Unis en provenance de ce pays. Et ça nous donne un pourcentage de protection. Il le divise par deux et ça donne le pourcentage de réplique de droits de douane réciproques mis en place. Puisque le Lesotho a un fort déficit commercial relativement à la taille de son pays, parce que le Lesotho exporte certaines matières premières nécessaires à l'industrie nord-américaine, mais importe très peu de biens, que ce soit pour les services ou pour que ce soit les biens finis industriels. Bien, les Américains, les Nord-Américains exportent des biens à forte valeur ajoutée, que le Lesotho ne peut pas se permettre d'acheter. Et donc, il y a un déficit qui est assez logique, en fait, qui est le résultat de modèles de développement et de niveaux de développement tout à fait différents. Et donc, voilà, il se retrouve victime de ce calcul un peu arbitraire de la part de l'administration Trump.
Des propos recueillis par Augustine Asta. En Allemagne, première économie européenne, le futur chancelier, le conservateur Friedrich Merz, a annoncé tout à l'heure qu'un gouvernement de coalition verra le jour début mai. Un accord a été trouvé entre son parti, la CDU, et les sociaux-démocrates, cantonnant l'extrême droite au rôle d'observateur. Friedrich Merz a présenté tout à l'heure les grands points scellant leur entente. Quatre axes sont prioritaires pour les quatre prochaines années. Les explications de Jean-Charles Pudelu.
Six semaines après les législatives qui ont renvoyé dans les cordes le parti social-démocrate d'Olaf Scholz et qui a vu l'AfD doubler son score, dépassant pour la première fois la barre des 20%, le chancelier Friedrich Merz a annoncé aujourd'hui en conférence de presse un accord de coalition qui remet en selle le SPD malgré sa défaite. Un accord principalement en quatre points que devra transformer le prochain gouvernement dont la formation sera annoncée début mai. Outre les points attendus et déjà largement évoqués en campagne, l'invité de dernière minute du programme de coalition reste la question des droits de douane américains qui risquent d'impacter fortement l'économie allemande très dépendante de ses exportations et parmi les plus exposées en Europe. Mais c'est à Bruxelles de faire entendre sa voix dans ce domaine et l'Allemagne le souligne, l'Union européenne pourra compter sur Berlin face aux bouleversements économiques et géopolitiques du moment. Sur la question du soutien à l'Ukraine, il restera sans faille et Berlin envisage de gros investissements militaires, quitte à s'endetter, une politique en rupture avec la tradition de la droite conservatrice, dans le but de soutenir les défenses ukrainiennes et d'une paix juste et négociée. Sur les flux migratoires, Berlin promet enfin des mesures strictes contre l'immigration clandestine, un nouveau cas dit Friedrich Merz, avec la suspension des regroupements familiaux et le durcissement de l'accession à la nationalité allemande.
Jean-Charles Puzolu, et puis sur fond de guerre en Ukraine et de crainte pour sa propre sécurité, l'Estonie marginalise aujourd'hui la forte minorité russe présente dans ce pays balte. 65 000 citoyens russes sur 973 000 électeurs sont désormais interdits de participer aux élections locales. Un amendement constitutionnel en ce sens a été promulgué tout à l'heure par le président estonien à l'Arc Caris. La paix ne doit jamais être tenue pour acquise, l'avertissement du roi d'Angleterre Charles III tout à l'heure lors d'un discours devant le Parlement italien. Le monarque de 76 ans y a rappelé le soutien de Londres et de Rome à l'Ukraine face à l'invasion russe. Il est 11h du matin à Bogota. Dans une heure en Colombie, les cloches des églises résonneront dans tout le pays en signe de proximité avec les communautés touchées par les violences des guérillas en cette journée dédiée à la mémoire des victimes des conflits armés. Le Paraguay gangrené par la corruption, plusieurs milliers de Paraguayens sont descendus encore récemment dans la rue pour protester contre ce phénomène, contre le gouvernement de Santiago Pena. Ce ras-le-bol populaire intervient après plusieurs mois de scandales ayant notamment entaché la justice. Déjà au terme de leur assemblée plénière, les évêques du pays avaient dénoncé les actes de corruption et de trafic d'influence, ainsi que le trafic de drogue, comme nous l'explique Monseigneur Pierre Jubainville, évêque de San Pedro Apostolo.
Nous qui vivons justement à l'intérieur du pays, on reçoit des témoignages de mouvements. Et ici, la culture principale, c'est la marijuana. On est aussi un pays de transition pour la cocaïne qui vient de Colombie, aussi de Bolivie, qui passe par les frontières nord, qui arrive en avion, en bateau, puis qui change de route souvent, parce que ça passe dans des camions, ça passe dans d'autres bateaux. La cocaïne va principalement sur le marché européen, mais il y a des contrôles en chemin, mais c'est des contrôles aussi où on achète les contrôleurs. Est-ce que c'est en augmentation? Oui, parce qu'on est monté justement dans le rang des pays où les organisations criminelles sont les plus marquantes. Mais ce n'est pas un sujet dont on parle. Il y a beaucoup de craintes à cause des représailles contre les gens qui informent.
Des propos recueillis par Xavier Sartre. Trois jours de deuil national en République dominicaine après la mort de 124 personnes à cause de l'effondrement du toit d'une célèbre discothèque de la capitale. Les évêques appellent à prier pour les défunts. Ils encouragent les autorités, le personnel de secours à poursuivre leurs efforts vis-à-vis des quelques 250 blessés. Et puis enfin au Vatican, pas d'apparition du pape en ce mercredi, jour d'audience générale. La catéchèse préparée par François a néanmoins été publiée. Elle porte sur la rencontre de Jésus et de l'homme riche. C'est à retrouver sur vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute attentive, de votre fidélité à Radio Vatican. L'actualité du monde de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30.
KTO Radio. KTO Radio présente à haute voix. La lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugh Benson.
Et tous les chemins de la pensée du prêtre aboutissaient à la conclusion, aussi, que Jésus-Christ était l'incarnation de ce Dieu souverain, ayant prouvé sa divinité par sa mort, sa résurrection et la suite miraculeuse de son Église jusqu'à Jean, son dernier vicaire. Toutes ces choses étaient comme des vertèbres de l'univers, des faits supérieurs au doute, immuablement vrais. Si ces choses n'étaient pas vraies, c'est que rien, nulle part, n'était qu'un vain rêve. Des difficultés ? Oui, certes, il y en avait, et en très grand nombre. Ainsi, le jeune prêtre ne comprenait aucunement pourquoi Dieu avait fait le monde tel qu'il était, ni comment le pain était transsubstantié en corps vivant de Dieu. Mais ces choses étaient, tout simplement. Percy songeait au voyage qu'avait fait son esprit depuis le jour où, dans son ardeur juvénile, il avait cru que toute vérité divine pouvait être démontrée dans le domaine intellectuel. Maintenant, il avait appris, pour toujours, que le naturel en appelait au surnaturel, que la pauvre raison humaine, assurément, n'était pas en état de contredire les mystères de la religion, mais qu'elle ne pouvait les prouver adéquatement qu'en admettant, d'abord, la révélation comme un fait, c'est-à-dire en se plaçant à un point de vue où l'âme écoute docilement la foi et l'esprit divin. Jamais il ne s'était rendu compte de l'innombrable quantité des objections que pouvait faire naître le dogme chrétien. Quand on le considérait du dehors, à la lumière d'une certaine critique nécessairement condamnée à n'en laisser voir qu'une apparence trompeuse. Et jamais, non plus, il n'avait mieux senti la profonde inanité, le néant éternel et fatal de ses objections. Ainsi, la fermeté de sa foi apparaissait-elle à Percy décidément assurée et inébranlable. En présence de la catastrophe qu'il prévoyait imminente, il songeait avec joie que, du moins, son âme serait à l'abri de la destruction. Mais sous cette certitude confiante de son cœur de croyant, il y avait sa curiosité d'homme, de témoin étonné du spectacle de la vie. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tout cela était-il permis ? Comment était-il concevable que Dieu n'intervînt pas et que le Père des hommes autorisât la race tout entière de ses enfants à se soulever contre sa personne ? Que comptait-il faire ? Est-ce que ce silence continu ne se romprait jamais ? Est-ce que ces millions d'âmes de toutes les nations qui naissaient et mouraient dans le blasphème, est-ce qu'elles n'étaient point, elles aussi, les agneaux de son troupeau ? À quoi donc était destinée l'Église catholique, si ce n'était pas à convertir le monde ? Et pourquoi, en ce cas, le Dieu Tout-Puissant avait-il permis à cette Église de se trouver réduite à une poignée de fidèles, tandis que, d'autre part, le monde trouvait sa paix en dehors d'elle et de lui ? En face de soi, Percy revoyait le monde. Cette folie qui s'était emparée des peuples, les histoires étonnantes que le téléphone venait de lui apporter. À Paris, des hommes et des femmes, avec l'ivresse mystique des anciennes bacchantes, s'étaient percé le cœur publiquement sur la place de la Concorde, en criant à une foule non moins enthousiaste qu'ils avaient assez longtemps vécu et ne pouvaient point survivre aux délices de cette divinisation définitive de l'humanité. À Séville, dans un concert, une danseuse célèbre était morte de joie, au milieu d'une figure de ballet, en apprenant l'acceptation de Felsenburg. Dans une vallée des Pyrénées, ce matin même, tous les catholiques avaient été crucifiés par les paysans que leur excès d'allégresse avait tout à coup rendu furieux. En Allemagne, trois évêques avaient abjuré. Et ceci, et cela, et mille horreurs qui s'étaient produites trop rapidement pour pouvoir être prévues ou arrêtées. Et Dieu continuant à ne faire aucun signe, à ne dire aucun mot. Il y eut un petit coup à la porte, et Percy, brusquement redressé, vit entrer de nouveau le vieux cardinal. Le vieillard paraissait horriblement usé. Ses yeux avaient une sorte d'éclat profond qui révélait de la fièvre. D'un petit geste, il invita Percy à s'asseoir, et lui-même s'assit dans un fauteuil, tremblant un peu et rassemblant ses pieds, bouclés d'argent, sous sa soutane noire aux boutons rouges. « Il faut que vous m'excusiez, mon enfant. Je suis anxieux pour la sécurité de l'évêque. Il devrait être ici à 7 heures. » Il s'agissait de l'évêque de Southwark, qui avait quitté l'Angleterre dans la matinée de ce jour. Il avait bien promis de venir tout droit à Rome, éminence. Oui, il devrait être ici depuis 23 heures. C'est bien minuit qui sonne, n'est-ce pas ? En effet, on entendait les tintements des horloges. Tout était très calme à présent. Dans la journée, l'air avait été vibrant de clameurs et de bruits. La foule des Romains s'était promenée par les rues, commentant la grande nouvelle. Et d'autre part, on disait que des bandes d'ouvriers des faubourgs avaient réussi à se glisser dans la ville en chantant des refrains anti-religieux. Mais de très bonne heure, les portes avaient été fermées. L'incident pouvait tout au plus inquiéter comme un indice de trouble à venir. Après quelques minutes de silence, le cardinal parut commencer à se remettre de son épuisement. « Vous paraissez fatigué, mon père, » dit-il à son jeune ami d'un ton affectueux. Percy sourit. « Et votre éminence ?» demanda-t-il. Ce fut au tour du vieillard de sourire. « Oh, moi, » dit-il, « je n'en ai plus pour longtemps. Et ensuite, mon père, ce sera à vous de souffrir. » Percy sursauta vivement, épouvanté. « Mais oui, » reprit le cardinal. « La chose est déjà arrangée avec le Saint-Père. C'est vous qui me succéderez. Inutile d'en faire un secret. »« Éminence, » murmura Percy d'une voix implorante. Mais le vieillard l'arrêta, d'un geste de sa maigre main ridée. « Oh, je comprends ce qu'il en est, » dit-il doucement. « Vous préfériez mourir, n'est-ce pas, et rester en paix ? Il y en a bien d'autres, allez, qui désirent cela. Mais il faut que nous souffrions d'abord. Et pati et mori, père Franklin. » Il faut accepter l'épreuve sans hésiter. Une fois de plus, un long silence suivit. La nouvelle qui venait d'être révélée à Percy était trop imprévue et trop surprenante pour produire en lui autre chose que la sensation d'un choc douloureux. Jamais l'idée ne lui était venue que lui, un homme de moins de 40 ans, pût être considéré comme le successeur désigné de ce sage et patient vieux prélat. Et quant à l'honneur de la chose, Percy, maintenant, était bien au-dessus de toute ambition personnelle. Il n'apercevait devant lui qu'une seule perspective, un long et cruel voyage sur un chemin qui grimpait à pic et avec les épaules chargées d'un fardeau trop pesant pour elle. Cependant, il se rendit compte bientôt que le fait annoncé était inévitable. Cela devait être, et il n'avait rien à dire. Mais c'était comme si un abîme de plus s'était ouvert devant lui. Et il en contemplait le fond avec une horreur muette, inexprimable. Le cardinal fut le premier à rompre le silence. « Père Franklin, » dit-il, « j'ai vu aujourd'hui un portrait de Felsenburgh. Savez-vous de qui j'ai cru d'abord que c'était l'image ?» Percy eut un sourire triste. « Mais oui, mon père, » reprit le vieillard, « j'ai pris ce portrait pour le vôtre. Et maintenant, que pensez-vous de cela ?»«
Je n'en pense rien et je n'y comprends rien, votre éminence. » »«
Eh bien... » Mais il s'interrompit et, tout à coup, changea de sujet.
Il y a eu un assassinat dans la cité tout à l'heure, dit-il. Un catholique a poignardé un blasphémateur. Percy, effrayé, releva les yeux. Oui, et l'assassin n'a pas essayé de fuir, poursuivit le vieillard. Il est en prison. Et il sera exécuté. Le procès commencera ce matin même. C'est bien triste. Le premier meurtre depuis plus d'un an. L'ironie de la situation apparaissait clairement à Percy. Pendant que, immobile au fond du fauteuil, il recueillait le silence répandu dans la nuit étoilée. Il songeait à cette pauvre ville affectant que rien n'était changé, continuant à administrer ses procédés surannés de justice traditionnelle sous la risée du monde. Et là-bas, au dehors, sans cesse grandissaient et se concentraient les forces qui allaient mettre fin à ce pauvre jeu. Son enthousiasme de naguère semblait mort en lui. Il ne frémissait plus d'admiration à la pensée du splendide mépris des faits matériels qui, jusqu'alors, lui avaient semblé si beaux et si émouvants. Il avait l'impression d'un homme observant une mouche qui repose sur le cylindre d'une machine en mouvement. Un clin d'œil et la roue énorme aura tourné, écrasant la petite vie de l'insecte. Et cependant, l'homme qui observe se sent hors d'état d'intervenir. Ainsi, le surnaturel se montrait à Percy, vivant encore, et aussi parfait que jamais, mais réduit aux proportions d'un point minuscule, et des forces immenses étaient en mouvement. L'univers se soulevait. Et Percy ne pouvait rien faire que regarder et trembler. Et pourtant, comme il se l'était dit encore tout à l'heure, il n'y avait pas une ombre sur sa foi. Il savait que la mouche, dans l'ordre de la vie, était plus grande que la gigantesque machine. Si bientôt elle se trouvait écrasée, ce n'est point sur elle que tomberait la souffrance suprême. Mais au-delà de cette certitude, tout était pour lui incertain et sombre. On entendit un bruit de pas, un petit coup sur la porte et un serviteur entra. Sa grandeur est arrivée, éminence, dit-il. Le cardinal se releva péniblement en s'appuyant à la table. Sur le point de sortir de la chambre, il s'arrêta, parut se rappeler quelque chose et chercha dans sa poche. Regardez ceci, mon père, dit-il en tendant au prêtre un petit disque d'argent. « Non, pas maintenant. Attendez que je sois parti. » Percy referma la porte et revint s'asseoir pour examiner le petit objet rond. C'était une pièce de monnaie, toute fraîchement frappée. Sur une des faces était l'emblème maçonnique habituel, avec les mots « un franc » gravés au centre, en langue espéranto. Et sur l'autre face se voyait le profil d'un homme avec cette inscription « Julien Felsenburgh, président de l'Europe. » À 10h, le matin suivant, les cardinaux furent convoqués dans les appartements du pape, qui avait à leur faire une allocution. Percy, de sa place parmi les consulteurs, voyait entrer les cardinaux et autres prélats, hommes de nation, de tempérament et d'âge divers, les latins gesticulants, découvrant des dents brillantes, les germains sérieux et recueillis, un vieux cardinal français appuyé sur sa canne et s'avança au bras du bénédictin anglais. La salle était une des grandes pièces, simples et nues, qui remplaçaient à présent les anciennes chambres du Vatican. Elle avait la forme d'une chapelle avec des rangées de sièges sur toute son étendue. Près de l'autel, sous un dais, s'élevait le trône pontifical. Percy n'avait aucune idée de ce qui allait être dit. Comment s'attendre à des déclarations précises et définies en présence d'une situation encore aussi incertaine? Tout ce que l'on savait, jusqu'à cette heure, c'était la confirmation de la nouvelle d'une présidence de l'Europe, confirmation suffisamment établie déjà par la petite pièce d'argent. On disait aussi qu'il y avait eu de toutes parts une brusque poussée de persécution, aussitôt réprimée par les autorités locales. Et le bruit courait que Felsenburgh, dès ce jour, allait commencer sa tournée de capitale en capitale. On l'attendait à Turin pour la fin de la semaine. De tous les centres catholiques du monde, des messages affluaient, implorant des instructions. On y lisait que l'apostasie se soulevait comme un énorme flux de marée, que partout la persécution menaçait, que même des évêques commençaient à chanceler. Quant aux intentions du Saint-Père, tout était douteux. Ceux qui savaient ne disaient rien. Et la seule chose qui se fut divulguée était que le pape avait passé toute la nuit en prière au tombeau de l'apôtre. Subitement, le murmure de la salle s'éteignit et tous les regards se tournèrent vers un même point. Un instant après, Jean, pater patrum, était installé sur son trône. Au premier moment, Percy ne chercha pas même à comprendre. Il considérait comme une peinture, dans la grande lumière poussiéreuse qui venait des hautes fenêtres, les lignes écarlates se dessinant des deux côtés et se continuant jusqu'à l'énorme baldaquin écarlate où se trouvait assise la figure blanche. Certes, ces méridionaux avaient la notion du pouvoir effectif de la mise en scène. Tous les accessoires étaient somptueux, imposants. L'élévation des murs, les couleurs des robes, les chaînes et les croix. Et cet aboutissement des couleurs et des ors à une petite forme blanche, comme si la gloire terrestre s'épuisait et se déclarait impuissante à dire le suprême secret. L'écarlate et la pourpre et l'or, cela convenait à ceux qui se tenaient sur les degrés du trône. Cela leur était nécessaire. Mais quant à celui qui était assis sur le trône, il n'avait pas besoin de ce luxe mortel. Et cependant, quelle expression merveilleuse apparaissait dans ce beau visage ovale, ce port impérieux de la tête, ce doux éclat des yeux, ces lèvres nettement découpées qui promettaient une parole vigoureuse. On n'entendait pas un bruit dans la salle, pas un souffle, ni un mouvement. Et au dehors même, on aurait dit que le monde se taisait pour permettre au surnaturel d'exposer, en paix, sa défense, avant de proclamer bruyamment la condamnation. Mais Percy fit un violent effort pour concentrer son attention et, les poings serrés, il écouta. Or, puisqu'il en est ainsi, mes fils en Jésus-Christ, c'est à nous de répondre. Comme nous l'enseigne le docteur des gentils, nous ne luttons point contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les puissances, contre l'esprit du mal dans les hauts lieux. Et c'est pourquoi, nous dit encore l'apôtre, armez-vous de l'armure de Dieu. Et de cette armure, il nous en explique l'espèce, la ceinture de la vérité, le bouclier de la justice, les souliers de la paix, l'écussion de la foi, le casque du salut et le glaive de l'esprit. Voilà donc avec quelles armes la parole de Dieu nous ordonne de combattre. Mais non pas avec une épée, car, en vérité, le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. C'est pour vous rappeler les principes de cette lutte que nous vous avons rassemblés en notre présence. La voix s'arrêta. Il y eut un mouvement général. Le long des sièges, comme un unanime soupir après un effort trop tendu. Puis la voix reprit, sur un ton un peu plus élevé. Il a toujours convenu à la sagesse de nos prédécesseurs, comme aussi il a toujours été leur devoir, tandis qu'ils gardaient le silence à certains moments, d'exprimer en toute liberté et à d'autres moments la parole entière de Dieu. De ce devoir, il ne faut pas que nous soyons, nous-mêmes, détournés par la notion de notre propre faiblesse et ignorance. Mais plutôt, il faut que nous ayons confiance que celui qui nous a placés sur ce trône daignera parler par notre bouche et faire servir nos paroles à sa gloire. En premier lieu donc, il est nécessaire que nous fassions connaître notre sentiment sur ce mouvement nouveau, comme on l'appelle, qui a été inauguré de nos jours par les maîtres du monde. Certes, nous ne négligeons ni ne dédaignons les bénédictions de la paix et de l'union. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier que la présente apparition de ces choses sur la terre a été le fruit de maintes autres choses que nous avons condamnées. Et c'est cette apparence de paix qui a trompé maints hommes, les amenant à douter de la promesse du prince de la paix. Que c'est par lui seul que nous aurons accès au Père. Cette paix véritable qui doit être donnée ne concerne pas seulement les relations des hommes entre eux, mais aussi les relations des hommes avec leur Créateur. Et c'est sur ce point nécessaire que les efforts actuels du monde se trouvent avoir échoué. Et en vérité, il n'est pas étonnant que dans un monde qui a rejeté Dieu, ce sujet essentiel soit perdu de vue. Les hommes pervertis par des séducteurs ont pensé que l'unité des nations était le bien le plus précieux de cette vie, oubliant les paroles de notre Sauveur, qui a dit qu'il ne venait point pour apporter la paix, mais un glaive, et que ce n'était qu'à travers bien des tribulations que nous pourrions entrer au royaume de Dieu. Et d'abord, donc, il convient d'établir la paix de l'homme avec Dieu. Après quoi, l'unité de l'homme avec Dieu s'ensuivra. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, nous dit Jésus-Christ, et alors toutes ces choses vous seront données par surcroît. En premier lieu donc, nous condamnons et anathémisons une fois de plus les opinions de ceux qui croient et qui enseignent le contraire de cela. Et nous renouvelons une fois de plus les condamnations prononcées par nous-mêmes ou nos prédécesseurs contre toute société, organisation ou communauté qui ont été formées pour établir l'unité sur d'autres fondements qu'un fondement divin. Et nous rappelons à nos enfants, à travers le monde entier, qu'il leur est défendu d'entrer dans une quelconque de ces associations, ou de l'aider, ou de l'approuver d'une manière quelconque. Percy s'agita sur son banc, avec une ombre d'impatience. Certes, la manière était superbe, tranquille et imposante, comme le courant d'un grand fleuve. Mais la matière, le fond, lui semblait un peu bien banal. Dans des circonstances comme celle-là, recommencer simplement l'ancienne réprobation de la franc-maçonnerie. En second lieu, poursuivit la ferme voix, nous désirons vous faire connaître nos intentions pour l'avenir. Et ici, nous allons avoir à aborder un terrain qui risque d'être considéré comme dangereux. De nouveau, un remuement sourd de toute la salle. Percy vit trois ou quatre cardinaux se pencher en avant, la main en trompette contre l'oreille, pour mieux entendre. Évidemment, quelque chose d'important allait venir. Il y a bien des points, continua la haute voix, dont il n'est pas dans notre volonté de parler à cette heure, les uns étant secrets par leur nature propre et les autres ayant à être traités dans d'autres occasions. Mais ce que nous disons ici, nous le disons au monde entier, parce que les assauts de nos ennemis sont à la fois publics et secrets. Telle aussi doit être notre défense. Voici donc quelles sont nos intentions. Le pape s'arrêta, éleva une main jusqu'à sa poitrine et machinalement saisit la croix qui y était suspendue. L'armée du Christ, tout en étant une, consiste en maintes divisions dont chacune a sa fonction et son objet particulier. Dans les temps passés, Dieu a fait naître des compagnies de ses serviteurs afin de remplir telle ou telle tâche spéciale. Les fils de Saint François afin de prêcher la pauvreté. Les fils de Saint Bernard afin d'unir le travail à la prière. pendant que de saintes femmes s'adonnaient à la même destination. La Société de Jésus pour l'éducation de la jeunesse et la conversion des païens. Et puis, pareillement encore, tous ces autres ordres religieux dont les noms sont connus à travers le monde. Chacune de ces compagnies a surgi à ce moment particulier où son intervention était nécessaire. Chacune a noblement répondu à sa vocation divine. Et chacune a eu aussi cette gloire de renoncer à tous les modes d'activité, même très bons en soi, qui pouvaient l'empêcher dans l'œuvre pour laquelle Dieu l'avait appelé, suivant en cela cette parole de notre Rédempteur. Toute branche qui porte du fruit, je l'émonde pour qu'elle puisse porter plus de fruits. Or, au moment où nous sommes, il apparaît à notre humilité que tous ces ordres existants, que nous louons et bénissons une fois de plus, ne sont point parfaitement appropriés, de par les conditions de leurs règles respectives, à s'acquitter de la grande tâche que requiert ce temps. Car notre lutte n'est point dirigée en particulier contre l'ignorance, que ce soit celle des païens à qui l'Évangile n'est pas encore arrivé, ou celle des hommes dont les pères l'ont rejeté. Notre lutte n'est point dirigée en particulier contre les décevantes richesses de ce monde, ni contre la fausse science, ni contre aucune de ces forteresses de l'infidélité contre lesquelles nous avons combattu dans le passé. Il semblerait plutôt que le temps est enfin venu dont parlait l'apôtre quand il disait que le grand jour ne viendrait pas avant que se produisît d'abord un grand reniement et avant que se révélât cet homme du péché, ce fils de la perdition, qui s'opposerait et s'exalterait par-dessus tout ce qui est appelé Dieu. Ce n'est pas contre telle ou telle force particulière que nous avons à lutter, mais contre l'immensité désormais dévoilée de ce pouvoir dont le temps nous a été prédit et dont la destruction est éternellement préparée.
C'était à haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le Maître de la Terre, de Robert Hugh Benson. Lecture, Anne-Céline Pellarini. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagallier. Une émission disponible en podcast sur kteoradio.com et sur l'application KTO Radio. Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
Et toutes mes craintes s'enfuient et tu pars. texte.
Lorsque je m'égare et que les ténèbres couvrent la voie, quand tous ces mensonges m'attirent et me détournent de toi. Oh oh oh. Je lève les yeux et aperçois ta lumière. Je regarde à toi et retrouve mes repères. Mon âme était perdue mais tu m'as retrouvé à la croix. Wow. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix. Non, rien ne surpasse ton amour pour moi. Wow. Non, rien n'est plus haut, plus haut, plus haut. Rien n'est plus haut que la croix. Non, rien ne dépasse ton amour pour moi.
Nous sommes libres, ta puissance n'est pas un mythe. Sauvé du châtiment qu'on mérite, sans fin est la vie qu'on hérite. L'affection que tu me communiques, chaque jour fait que je me sens unique. Tu m'aimes d'un amour éternel, tes bontés envers moi sont sans limite. Je peux dire que je t'ai vu et rencontré, sans connaître ton portrait. Je mène mes combats en paix, car d'avance tu les as déjà tous remportés. J'affronterai les montagnes et tout ce qui me fait mal au cœur. Si l'œuvre de la croix est au-dessus de tout, je ne peux être qu'à la hauteur.
Non, rien n'est plus haut.
Écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.
La parole aux associations.
Bonjour à tous, bienvenue dans La parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Frédéric Fabry. Bonjour Frédéric.
Bonjour Agnès, bonjour KTO.
Alors Frédéric, vous dirigez l'Ordre de Malte France et il y a quelques semaines, vous avez accueilli Benoît Saint-Denis, un champion de MMA, sur le fleuron Saint-Michel, la péniche d'hébergement et de réinsertion installée en bord de Seine à Asnières. Alors expliquez-nous, que fait un champion de MMA sur une péniche de l'Ordre de Malte ?
Oui, c'est une belle histoire. En fait, il y a quelques mois, Fabien Boisseuil, qui est qui dirige nos deux péniches à Paris, pour l'Ordre de Malte, ce sont des péniches de réinsertion sociale et d'hébergement d'urgence, nous a dit, ah, vous savez, il y a quelqu'un d'inspirant pour les passagers et qui regarde beaucoup ses combats, etc. C'est Benoît Saint-Denis, qui est donc un combattant de MMA. Qu'est-ce que c'est le MMA? C'est un sport de combat qui est très à la mode, qui combine plusieurs disciplines, du judo, du karaté, de la boxe thaï, de la lutte au sol, etc. Et Benoît Saint-Denis est un athlète français particulièrement reconnu dans cette discipline. Et alors, qui est Benoît? Benoît Saint-Denis, c'est un ancien militaire, un ancien des commandos, et qui est devenu un athlète professionnel du MMA. Et donc, Fabien nous a dit, oh, bah voilà, ce serait vraiment un partage excellent pour nos passagers de pouvoir recevoir Benoît. Et les équipes de l'Ordre de Malte ont contacté Benoît Saint-Denis et qui a tout de suite accepté. Et donc, qui est venu sur cette péniche à Asnières. Et nous l'avons accueilli un samedi toute la journée. Et il est venu à la rencontre des passagers. Et ce qui était formidable, c'est que Benoît, à la fois, il en témoigne très librement, très facilement. Et puis, il a avec lui véhicule cette image du combattant, de celui qui se relève de ses blessures, qui a toujours du courage, qui n'abandonne pas dans l'épreuve. Et en fait, c'est ça qu'il a témoigné auprès des passagers. Et donc, il y a eu un temps d'échange assez long avec nos résidents, avec les passagers, qui ont pu lui demander, mais alors comment on se relève d'un échec, comment on affronte les épreuves, comment on se remet des blessures. Et c'était vraiment une belle rencontre, voilà, qui était inspirante, bien sûr. Et puis surtout, je pense qu'il y a redonné de l'espérance et puis une petite lumière pour ces passagers pour qui la vie est difficile. Et bien de voir qu'un champion, qu'une star mondiale s'intéressait à eux, se mettait à leur portée et discutait très facilement. Voilà, c'était un très beau moment.
Et alors, est-ce que vous pouvez revenir sur ce concept de péniche d'accueil de l'Ordre de Malte?
Ah, bah, la péniche, c'est un concept formidable initié par l'Ordre de Malte. Et donc, nous en avons deux à Paris. Et donc, c'est évidemment l'idée dans ces péniches, c'est d'accueillir des hommes qui sont en situation de grande précarité. Tous nos résidents ont bien conscience qu'ils sont des passagers et donc qu'ils sont de passage. Et donc, on est bien dans un endroit de réinsertion. On y est de passage pour retrouver du courage, retrouver, pourquoi pas, une formation, retrouver... un accompagnement qui va permettre de se réinsérer dans la ville. Et donc, depuis très longtemps, nous exploitons ces deux péniches, l'une à Asnières, l'une à Paris, dans le 15e. Et ces bateaux, c'est en fait un peu un radeau ou une bouée pour un nouveau départ. Et voilà. Et donc, nous avons des professionnels, évidemment, de l'accompagnement social, mais aussi nos bénévoles, nos délégations qui vont sur les péniches pour des soirées de jeux, d'animation, d'échanges, de partage avec nos passagers. Nos résidents. Voilà, la réinsertion et le parcours de remise en route, il est extrêmement optimisé pour chacun d'eux.
Eh bien, merci Frédéric pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet ordredemaltefrance.org. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.
Excellente journée, merci Cathéo, merci Agnès, à bientôt.
Cathéo Radio.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Nous voici déjà bien avancés sur le chemin du carême. Durant le temps du carême, nous sommes invités à nous donner des moyens concrets dans l'aumône qui est un partage avec les autres, la prière et le jeûne, pour nous aider à discerner sur ce qui est essentiel à notre vie. Nous sommes appelés à constituer notre trésor dans le ciel, car là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Comment est-ce que je vis ce temps de carême dans ma vie professionnelle ? En tant qu'entrepreneur et dirigeant chrétien, on est appelé à vivre notre unité. Tout d'abord, notre unité entre notre vie spirituelle et notre vie professionnelle. C'est clairement plus facile à dire qu'à faire. Nous avons une richesse qui nous sert de socle dans la mise en action de notre foi. Cette richesse est la pensée sociale chrétienne, avec ses 6 principes. Le tout premier pilier est la dignité humaine, qui est aussi essentielle dans le monde du travail. L'entreprise est un écosystème social de relations entre les personnes qui, pour fonctionner, doit être basé sur le respect de l'autre. Dans Laborem Exercens, Jean-Paul II nous rappelait que c'est en tant que personne que l'homme est sujet au travail. Il accomplit des actions appartenant au processus de travail et ces actions doivent toutes servir à la réalisation de son humanité, à l'accomplissement de la vocation qui lui est propre, en raison de son humanité même. C'est celle d'être une personne. Dans le monde d'entreprise, il est essentiel pour moi d'adosser les relations fournisseur-client, interne ou externe, à une relation de personne à personne. Avant d'avoir un rôle, un titre ou une fonction, moi, je suis. Je suis une personne avec mes talents, mes expériences, mes forces et aussi mes faiblesses, qui rencontre d'autres personnes, toutes uniques. La première forme de reconnaissance et de dignité est le regard que je pose sur l'autre et sur son travail. Dans la pensée sociale chrétienne, la dignité est une question de justice. Donner à chacun ce dont il a besoin pour accomplir son travail. Parfois, c'est plus simple de donner l'information afin que la personne puisse avancer au lieu de la retenir. Cette justice, c'est aussi notre devoir de stimuler et développer des personnes d'une manière ajustée. Si on prend le contexte commercial, la question qu'on peut se poser sous l'angle de dignité humaine est comment est-ce que je stimule, motive d'une manière équilibrée les capacités de compétition versus celles de coopération de mon équipe. Dans mon cabinet, j'interviens auprès des clients pour structurer des directions financières. Sujet certes passionnant, mais souvent très sensible. Le droit à l'information nécessite de poser des mots justes sur la situation réelle et d'expliquer ce qui peut fonctionner et ce qui ne risque pas de fonctionner dans le contexte de cette entreprise. Après le mot, on doit poser les actes. Et c'est le travail avec chaque interlocuteur pour l'accompagner de là où il se trouve vers là où il faut qu'il avance afin que l'ensemble puisse fonctionner. La résistance au changement est quelque chose de naturel et les tensions se révèlent. M'attacher à la dignité est essentiel pour ouvrir le dialogue et maintenir un rythme de travail. En tant qu'humain, on se réalise par le travail, c'est-à-dire en action, pas juste en parole. En tant que membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, on œuvre pour mettre en pratique le principe de la pensée sociale chrétienne. Ce sont bien des principes qui viennent de principium, c'est-à-dire point de départ, commencement. La mise en place de ces principes ne se décrète pas. Ça s'est construit, comme le carême. C'est tout un chemin basé sur le partage et la prière. Bonne route vers Pâques et à bientôt.
Vous écoutez KTO Radio.
De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent.
tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom que tous les peuples entendent chant.
Fortifie